Philosophie du vivant, Père Philippe, 23 décembre 1983, Saint-Joseph.
On va continuer l'étude sur la passion-amour. Alors je vous invite vivement, si vous ne l'avez pas déjà fait, et si vous l'avez déjà fait l'année dernière, de le refaire cette année-ci, de relire dans saint Thomas Prima Secundae, question 26 et suivant, sur l'amour. Ce sont des questions capitales, ça. Saint Thomas traite l'amour au niveau de la passion et non pas au niveau spirituel. Vous voyez, c'est très curieux. En théologien, c'est le théologien de la passion, saint Thomas. C'est son mérite. C'est sa gloire, pour étudier comment la passion existe dans le Christ. Au point de vue philosophique, on étudie l'amour spirituel, l'amour d'amitié, en premier lieu, et on voit comment il assume l'amour passionnel. Saint Thomas, théologien, lui, étudie avant tout, quand vous regardez l'amitié dans la Somme, où est-ce que vous la voyez? Oui, parmi les petites vertus de la vie commune, c'est bon, amicabilis, hein, on est de bon rapport avec son voisin, on est un tempérament amical. Et puis, dans la charité, alors, dans le traité de la charité, comme grande analogie, et pas traité pour elle-même. Et vous traitez la passion. C'est curieux, il faut au moins voir le petit scandale que ça peut représenter. Que le théologien s'intéresse plus à la passion-amour qu'à l'amour d'amitié. C'est très curieux. Et c'est très intéressant de noter ça. Vous voyez ? La très grosse différence, si vous voulez, de saint Augustin. Saint Augustin, c'est l'amitié. C'est évident, c'est l'amitié. Cicéron, n'en parlons pas, il n'est pas théologien. C'est le De Amicitia, à la manière cicéronienne. Hein, parce que le De Amicitia de Cicéron n'est pas tout à fait la filia aristotélicienne. Pour celui qui s'intéresserait à ce sujet, il pourrait faire une très belle comparaison. Ce sera un très beau sujet de philosophie, de voir la filia chez Aristote et le De Amicitia chez Cicéron. Très beau, très belle comparaison à faire. Et c'est très intéressant à faire ça. Toute l'influence stoïcienne qui passe à travers Cicéron, et puis au contraire, la filia d'Aristote. Et puis alors ensuite, vous voyez saint Thomas, le traité des passions. Alors comprenons, on est dans une vision théologique. Alors parce qu'on est dans une vision théologique, on essaie de tout étudier en fonction du mystère de l'homme et du Christ. L'homme parfait, c'est le Christ. Et on essaie d'étudier le mystère de Jésus. Et dans le mystère de Jésus, ce qu'on demande avant tout, y a-t-il eu dans le Christ une véritable passion? Et pourquoi on se demande ça? C'est parce que certains philosophes ont dit pas de passion dans le Christ. C'était quelqu'un de trop bien. Donc il n'y a pas de passion. Les passions, c'est bien pour les gens moins bien, c'est-à-dire pour nous, hein. Les gens imparfaits, alors on est passionnel, on est pris par telle ou telle orientation profonde qui nous saisit, qui nous bloque. On manque de vertu. Alors saint Thomas se pose la question, est-ce qu'il y a la passion chez le Christ? Et il réhabilite la passion dans le Christ. Et au fond, c'est pour ça que saint Thomas étudie la passion. Et c'est pour ça que saint Thomas étudie la passion amour. Pour réhabiliter la passion dans le Christ. Pour montrer que dans le Christ, la passion existe. Et qu'il y a dans le Christ la passion amour. Alors ça, c'est très intéressant. Alors c'est pour ça qu'il il a tout un traité long sur la passion. Alors si vous voulez, ça fait un petit nota bene. Mais c'est intéressant pour nous d'essayer rapidement, je vous demande de le relire pour vous-même, parce que ça vaut la peine. C'est une manière d'entrer dans saint Thomas. C'est une manière qui n'est pas réparative du tout. étudier la passion dans saint Thomas, c'est peut-être découvrir le sourire de saint Thomas, vous voyez. C'est découvrir dans saint Thomas l'homme passionné et qui sait très bien ce que c'est que la passion. Et qui l'étudie en une analyse extrêmement précise. Alors, avant de continuer les passions au point de vue vivant, du vivant, je regarde ici avec vous. Ça va être vite fait du reste. La passion est-elle dans le concupiscible? Bon, pour saint Thomas, le point de vue de la passion, et ça va nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est que la passion. La passion, c'est un appétit sensible. C'est un appétit sensible dans l'ordre du concupiscible. Qu'est-ce que c'est que le concupiscible? Le concupiscible, c'est justement au niveau sensible ce qui nous rend capable d'être attiré par le bien sensible. Le bien sensible nous attire. On est attiré par le bien sensible. On est attiré, alors toujours dans la perspective des Grecs, on aime le bon vin. Dans la perspective suisse, on aime le bon chocolat. Dans la perspective des différents pays, vous pourriez découvrir comme ça les différents concupiscibles développés dans les différents, la carte des concupiscibles de tous les pays, n'est-ce pas? Alors faites la carte des concupiscibles et vous verrez quels sont les biens dominants sensibles qui dominent dans les différents pays, différents aspects. Alors on doit découvrir ce point de vue du concupiscible qui est attiré vers le bien sensible. On est attiré vers le bien sensible. Qu'est-ce que ça représente alors? La passion amour, c'est cette première passion vers le bien sensible qui nous connaturalise vers le bien sensible. On réagit. La passion, c'est une action, c'est une opération au niveau sensible. On est pris, on est attiré par le bien sensible et on répond. C'est donc la réponse à cette attraction. Et cette opération qui est la passion implique nécessairement une connaissance sensible. Une connaissance sensible et même une imagination. Nos passions sont nourries par l'imaginaire. L'imagination nourrit énormément nos passions, plus que la réalité sensible immédiate. C'est la très grosse différence, si vous voulez, entre uniquement le point de vue de la sensation, qui elle regarde la réalité sensible immédiate, il y a tout un halo imaginatif qui enveloppe toujours nos passions. C'est pour ça que nos passions peuvent aller si loin, dans l'immanence, à cause de l'imaginaire. Donc le concupiscible, l'amour est la première passion du concupiscible. C'est l'éveil premier du concupiscible vers le bien sensible. On se laisse attirer, on se laisse prendre, on se laisse conquérir par ce bien sensible. On se laisse dominer par ce bien sensible. Et ce bien sensible implique la connaissance de ce bien, et cette connaissance se fait grâce aux sensations et grâce à l'imaginaire. Donc, on peut dire de cette manière-là que l'amour est la passion du concupiscible par excellence. Cet amour passionnel se distingue de l'amour spirituel, qui sera une dilection. Saint Thomas va tout de suite, en tant que théologien, n'est-ce pas, va distinguer tout de suite ces deux niveaux affectifs. Le niveau affectif sensible, passionnel. Le niveau sensible passionné, nous en avons conscience. Et puis, le niveau affectif spirituel, qu'il appellera dilection. Pas la même chose, la dilection, qui regarde un bien spirituel. Le bien spirituel, c'est un bien personnel. Tandis que le bien passionnel regarde un bien sensible comme tel. Alors, Comprenons bien que la passion, c'est cette réaction intérieure affective par rapport à ce bien sensible qui nous attire, que nous connaissons. Et alors, c'est cette réaction intérieure, cette réaction vécue intérieurement. La passion est vécue dans l'immanence. Alors, la passion vécue dans l'immanence est vécue au niveau de l'intentionnalité. C'est l'intentionnalité affective, la passion, vécue au-dedans de nous-mêmes, mais dans l'immanence. C'est pas quelque chose que nous manifestons en premier lieu à l'extérieur. La passion est toujours vécue intérieurement, en premier lieu. Un être vraiment passionnel, vous ne le voyez pas tout de suite. Vous voyez ses manifestations à l'extérieur, mais les manifestations, vous voyez, c'est pas sa passion. La passion, elle est vécue intérieurement. Elle est vécue au plus intime de notre cœur sensible. Il y a un cœur sensible et passionnel en nous. Et alors, c'est en ce sens-là que saint Thomas va tout de suite montrer, dans la lumière de la passion, comment on va distinguer un amour d'amitié qui est fondé sur la bienveillance et un amour d'amitié de concupiscence qui est fondé sur la passion amour. Ça, c'est une distinction qui, pour le théologien, est extrêmement importante à faire. Le philosophe l'a fait, cette distinction-là, c'est bien évident. Mais ici, saint Thomas l'a fait dans cette question donc 26, où il nous montre que l'amour d'amitié est basé sur la bienveillance. Dans le véritable amour d'amitié, nous voulons le bien de l'autre, au sens très fort, et non pas notre bien. Et là, nous pouvons tout de suite discerner. Alors, il ne faut pas évidemment les séparer. Vous n'avez pas un amour d'amitié à l'état pur. Votre amour d'amitié va toujours impliquer un peu de concupiscence. C'est bien évident. Je t'aime pour toi. Oh, un peu aussi pour moi. N'est-ce pas ? Bah, soyons loyaux et disons-le. Je t'aime pour toi, c'est toi la bienveillance. Hein. Et je ne veux que ton bien. Ah, uniquement ton bien. Ah, si tu veux mon bien, alors très bien, j'ai à quoi m'en tenir. Je te dirai, voilà ce que je dois faire. Hein? Tu veux que mon bien. Oui, mais. Et puis par derrière, quand même, hein, un tout petit peu, c'est un peu aussi pour moi. Peut-être loyal. Vous voyez, faisons attention. Les distinctions qu'on fait théologiquement ou philosophiquement, ce sont des distinctions qu'on fait en fonction de l'objet. Mais il faut bien comprendre que dans la réalité, un peu mêlé. Vous voyez bien que l'amour d'amitié de bienveillance porte sur le bien spirituel. L'amour d'amitié de concupiscence porte sur l'amour de bien sensible. Ce qu'on veut pour soi, c'est la joie de la présence de l'ami. Ah, ça nous fait beaucoup de joie. Ah, comme ta présence me fait beaucoup de joie. Tant mieux. Ça peut être un amour de concupiscence. On aime l'autre pour nous. Mais en même temps, ah non, je veux t'aimer pour toi. Alors il peut y avoir une lutte. C'est normal qu'il y ait la lutte. Avant d'arriver vraiment à un amour d'amitié qui soit un amour d'amitié limpide, simple. Tant que la passion domine, la passion affective domine, l'aspect du concupiscible domine. Ça ne peut pas être autrement. La passion fait qu'on attire le bien pour soi. Et c'est propre de la passion. Fameuse chose d'Aristote, quand vous dites que vous aimez le bon vin, mais vous aimez que le vin soit bon, non pas parce que vous aimez le vin pour lui-même, mais vous l'aimez pour vous. Alors vous aimez bien et vous aimez mieux le bon vin que le mauvais. Le mauvais vin, mais ça ne vous intéresse pas beaucoup. Tandis que le bon vin, vous l'aimez. Mais vous l'aimez non pas pour lui, mais pour vous. Faites la petite transposition par rapport à l'ami. Vous aimez l'ami pour lui-même, mais vous l'aimez aussi pour vous. Et l'aimer pour soi, c'est évidemment nécessairement l'amour passionnel. L'amour passionnel est captatif L'amour de bienveillance est oblatif, comme on dirait dans le langage moderne. J'aime mieux le langage ancien, parce que captatif et oblatif, c'est très très bien, mais ça ne correspond pas tout à fait à la réalité. J'aime mieux dire que lorsqu'on aime d'un amour passionnel, on aime pour nous. Vous voyez la finalité. Tandis que captatif et oblatif, c'est la manière d'aimer. Alors on distingue du côté de la manière d'aimer. Ça, c'est tout à fait la psychologie. Tandis qu'au contraire, si je distingue par les finalités, c'est autre chose. Ça, c'est philosophique ou théologique. Et je dis qu'il y a dans l'amour passionnel, on aime le bien pour nous. J'aime le bon vin pour moi. J'aime la présence de mon ami pour moi. Parce qu'il me réjouit, il me fait du bien. Il m'épanouit. Alors je l'aime pour moi. Dans un amour de bienveillance, j'aime l'ami pour lui. Et je veux son bien. Et je veux son épanouissement. Les deux choses ne sont pas contradictoires. Hein. C'est pas sur le même plan. Le tout, c'est de maintenir un ordre. C'est que dans l'amour d'amitié, toujours la bienveillance soit première. Et que ce soit ça qui domine. Dans l'exercice de l'amour d'amitié, il faut que la bienveillance domine toujours. Qu'il y ait en même temps la joie de la présence de l'ami. Mais c'est normal. On reste des êtres sensibles. Et on reste des êtres passionnés. Et leur dire, oh non, oh, ça m'est totalement indifférent. Que tu sois présent, que tu sois absent, que veux-tu, je suis arrivé à un tel degré dans l'amour d'amitié, à un degré tellement pur et limpide, que ça m'est totalement indifférent. Eh bien, ça, c'est une illusion. Quand on dit ça, on s'illusionne. Vous voyez, c'est pas vrai. Soyons vrais. Vrai à nos propres yeux et aux yeux de notre ami. Et vrai, c'est de considérer qu'il y a nécessairement une certaine joie de la présence de l'autre. Et on le reconnaît. Et on le reconnaît en toute vérité. Et alors, si on, au point de vue chrétien, on l'offre à Dieu. Ça, c'est évident. On offre les deux à Dieu. Au point de vue chrétien, au point de vue philosophique, on constate tout simplement. Et au point de vue philosophique, on pourrait l'offrir à son ami. Ah, comme tu me fais plaisir d'être là présent, ça me permet d'aller plus loin encore dans la bienveillance. Parce que normalement, quand vous êtes de bonne humeur, le spirituel domine. Quand vous êtes de mauvaise humeur, la passion par en dessous reprend tout. Et c'est la passion tristesse. Alors vous dites avec un visage triste, oh oui, je t'aime tellement, tu peux faire tout ce que tu veux, ça m'est égal. Bah, attention, tu es triste en disant ça, c'est pas vrai du tout, c'est pas vrai du tout. Mais alors c'est la tristesse qui l'emporte. Et alors la tristesse, c'est la passion. Oui. C'est très curieux, comme c'est complexe, hein, c'est pas simple du tout. Il faut beaucoup de temps avant d'arriver à la limpidité. Il faut étendre, ça c'est évident. L'amour spirituel doit être victorieux de la passion. Mais victorieux de la passion, non pas la supprimer, l'assumer. Donc vous voyez, cette question est très importante. Ensuite, saint Thomas se pose la question des causes de l'amour passionnel. Le bien est-il la seule cause? C'est évident que c'est le bien qui est la cause qui spécifie. La connaissance est-elle cause de l'amour? Ah, c'est aussi une question très importante, cette question-là. Les rapports, point de vue des causes. Là, je veux simplement vous dire cette première question que saint Thomas nous dit sur l'amour passionnel. Si cet amour passionnel, c'est notre affectivité qui est prise. Notre affectivité due du concupiscible, de la concupiscence qui est en nous. Les concupiscences, en prenant le concupiscible, sans voir quelque chose de péjoratif. Pas péjoratif, le concupiscible. C'est tout simplement l'affectivité sensible. Notre affectivité sensible est passionnelle, premièrement. Bon, alors maintenant, cherchons les causes. Si nous voulons regarder ceci, c'est la question 26. Tu vois, c'est Saint Thomas pose ensuite la question des causes. Quelles sont les causes de l'amour? Alors, les deux causes de l'amour, il ne faut jamais l'oublier. Les deux causes de l'amour, c'est d'une part le bien, d'autre part la connaissance. Alors là, il y a un très gros problème qui est très intéressant à bien saisir au niveau de la passion amour et, j'allais dire, d'une certaine manière, au niveau de tout amour. Le bien, c'est nécessairement ce qui spécifie. Ce qui spécifie tout amour. Tout amour est spécifié par le bien. Autrement dit, la passion amour est déterminée par le bien sensible que j'aime. C'est le bien sensible que j'aime qui donne à ma passion amour son caractère propre. Autre chose est d'avoir une passion vis-à-vis de l'alcool, autre chose, une passion vis-à-vis du chocolat, autre chose, une passion à l'égard de ce qu'on peut représenter n'importe quel autre bien sensible. Donc, le bien sensible spécifie et détermine. Quand je dis spécifie, ça veut dire détermine. Qui détermine ta passion. Cette passion, elle est déterminée par ce bien sensible. Mais ce bien sensible demande d'être connu. Pour qu'il soit connu. La connaissance est nécessaire. Il n'y a pas de passion sans connaissance. Il n'y a pas d'amour spirituel sans connaissance. Mais quel est le rôle exact de la connaissance par rapport au bien? Ça, c'est un problème très intéressant qui a été très discuté parmi les thomistes. Et qui est un problème capital. Il faut y revenir tout le temps. Je dis bien, le bien en tant que connu spécifique. La connaissance est donc une condition sine qua non. S'il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas d'amour. Première chose qu'on doit reconnaître, s'il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas d'amour. Il faut nécessairement connaître le bien. Et le connaître, quand c'est un bien sensible, le connaître comme un bien sensible, c'est-à-dire par la sensation et par l'imagination. Si c'est un bien spirituel, il faut le connaître comme un bien spirituel, c'est-à-dire par l'intelligence, et pas uniquement par le point de vue de la sensation, et pas uniquement par le point de vue imaginaire. Il faut le connaître. Donc la connaissance est nécessaire, elle est requise. Est-ce que la connaissance spécifie, c'est-à-dire détermine? C'est-à-dire, plus je connais ce bien, plus je l'aime. Est-ce que je peux dire ça? Plus je connais un bien, plus je l'aime. Alors à ce moment-là, si je peux dire ça, la connaissance n'est plus seulement condition sine qua non, elle est beaucoup plus. Elle va jouer un rôle particulier pour intensifier cet amour. Plus je connais, plus j'aime. Ou est-ce que je dois dire, ça dépendra des cas. Parce que c'est vrai que plus je connais, plus j'aime, c'est pas toujours juste. C'est pas toujours juste, ça dépend quel genre de connaissance, et on sent ça très bien du reste. C'est là où la psychologie peut faire avorter un amour. Je veux connaître absolument sûr. Pas absolument sûr, qu'il faut absolument avoir une lucidité absolue. Il faut quelquefois accepter que le bien comme tel m'attire et que j'accepte que ce bien reste un peu caché. L'amour n'implique pas nécessairement une curiosité qui fait que je veux à tout prix connaître. Il peut y avoir à ce moment-là un débordement de connaissances qui fait que ce n'est plus le bien. Ce n'est plus le bien qui m'attire, mais c'est la connaissance de ce bien qui m'attire. Et ce n'est plus la même chose. Et c'est là où il y a une perspective très délicate. Il faut comprendre donc que le bien est une condition nécessaire, que la connaissance est une condition nécessaire. Il faut que le bien soit connu. Mais ce n'est pas la connaissance de ce bien qui détermine mon avenir. C'est le bien lui-même, et non pas la connaissance du bien. C'est pour ça que je ne peux pas dire « plus je connais, plus j'aime ». Je peux dire « plus le bien connu m'attire, plus j'aime ». Donc c'est bien le bien qui attire. Autrement dit, c'est propre de la cause qui l'a et au point de vue de la détermination. La détermination est impliquée dans la cause finale. C'est la cause finale qui détermine la passion. C'est la cause finale qui détermine l'amour spirituel. La connaissance peut être une manière de faire dériver le point de vue de la cause finale vers le point de vue d'une détermination particulière. C'est simplement la connaissance. Je n'aime pas dans la mesure où je connais. J'aime dans la mesure où le bien m'attire. Prenons un exemple dans l'ordre de l'amitié, parce que c'est peut-être plus facile à connaître que dans l'ordre de la passion, mais c'est vrai même dans la passion. Celui qui veut trop analyser peut tuer un amour. Celui qui veut trop analyser, parce qu'en analysant trop, il devient critique. Il est évident que la connaissance critique tue l'amour. Et que l'amour ne veut pas cette connaissance critique. Or, cette connaissance critique, ce serait légitime si je pouvais aller le plus loin possible dans l'ordre de la connaissance. Et si je devais aller le plus loin possible dans l'ordre de la connaissance. Il y a donc une mesure. La connaissance doit être au service de l'amour et non pas l'amour au service de la connaissance. Si la connaissance doit être au service de l'amour, il faut comprendre que cette connaissance demeure mesurée par l'amour. Elle ne s'impose pas comme un absolu. Tandis que quand la connaissance s'impose comme un absolu, cette connaissance ne s'inquiète pas de la critique. Elle peut assumer toute une pensée critique. Elle doit même l'assumer. Quand la connaissance est recherchée pour elle-même, elle doit se servir d'une critique. Quand la connaissance est mesurée par autre chose et par un bien, attention à la connaissance critique. C'est très très important pour l'exercice de la charité fraternelle. Ah, il faut se connaître, absolument se connaître. Et pour se connaître, il faut se critiquer, il ne faut pas hésiter. Si on commence à se critiquer, on supprime l'amour. On diminue l'amour. Il faut donc comprendre que la connaissance est au service de l'amour et non pas l'inverse. Alors, je prends cet exemple dans l'ordre de la connaissance, dans l'amour d'amitié. Parce que c'est la même loi. La seule différence, c'est que là, il y a une connaissance spirituelle qui est plus exigeante. Lorsque vous êtes en présence et dans l'exercice d'un amour d'amitié, il peut se faire qu'à certains moments, cet amour d'amitié soit moins fervent. L'élément sensible est moins senti. Ça peut se faire. C'est normal. Pas toujours un équilibre parfait entre le point de vue de l'élément ferveur sensible et la volonté d'aimer. Dans l'amour d'amitié, il y a une volonté d'aimer. Et cette volonté d'aimer n'implique pas nécessairement une ferveur sensible. Il peut y avoir des moments où on ne sent plus rien, point de vue sensible. Ça n'a pas d'importance. On veut aimer. On veut continuer d'aimer. Et alors, si on veut retrouver quelquefois l'élément sensible, on voudra à tout prix renouveler sa connaissance. On dira c'est nécessaire. Et alors à ce moment-là, on essaiera de pousser quelquefois l'élément connaissance le plus qu'on peut, surtout si on a entendu les opinions des autres. Parce que ça peut arriver. Les opinions des autres n'interviennent pas directement dans l'amour que j'ai pour quelqu'un. Si je fais intervenir l'opinion des autres, je veux critiquer ces opinions des autres, je veux répondre à cette opinion des autres. Et alors à ce moment-là, je fais tout un effort intellectuel pour répondre à l'opinion des autres. Et cet effort intellectuel pour répondre à l'opinion des autres risque, à ce moment-là, de faire que l'amour n'est plus la mesure de ma connaissance, mais que la connaissance est recherchée pour elle-même. Et alors à ce moment-là, l'amour peut très bien être très secoué dans sa racine même d'amour. Il peut même, je crois, être brisé. L'amour peut être brisé par une critique de connaissances trop grandes, tout simplement pour répondre à la connaissance des autres, pour répondre à l'opinion des autres, pour répondre aux critiques des autres. Et je crois que ça, nous le sentons très fort, si nous sommes un peu attentifs, nous sentons très fort que la critique des autres n'intervient pas dans l'amour d'amitié. Les autres n'ont rien à voir au sens très fort. Alors, ils peuvent nous donner des conseils, mais même leurs conseils et leurs critiques. Alors, je parle au point de vue philosophique. Au point de vue surnaturel, ce sera différent. Il y aura tout le point de vue de la charité fraternelle qui interviendra. Il y aura tout le point de vue de la foi qui intervient. Et puis, il y a tout le point de vue des purifications qui sont beaucoup plus grandes dès qu'on est dans l'ordre surnaturel. Mais au point de vue humain, au point de vue simplement humain, l'opinion des hommes n'a rien à voir dans l'exercice de la charité fraternelle, et dans l'exercice de l'amitié. Et quand on commence à faire intervenir l'opinion des autres appelle une nouvelle connaissance, appelle une nouvelle critique, et alors à ce moment-là, la critique risque de briser. Oui, c'est là où il faut bien saisir que toujours, dans l'ordre de l'amour, la connaissance ne détermine jamais. Je n'aime jamais l'autre à cause de la connaissance que j'ai de lui, mais j'aime l'autre à cause qu'il est mon bien. Et ce n'est pas la connaissance que j'ai de lui qui légitime mon amour. Mon amour ne se légitime pas par la connaissance. Ça, évidemment, Pascal le disait, n'est-ce pas, en disant que le cœur a des raisons que la raison n'a pas. Il le dit à cette manière-là, on peut le dire de cette autre façon, plus philosophique, en disant que la connaissance ne mesure pas mon amour. Et que c'est l'amour qui lui-même se légitime par lui-même. Aussi bien l'amour passionnel que l'amour spirituel. Et que la connaissance, donc, n'est pas mesure. La parole de Saint Bernard, l'amour se mesure par lui-même. Donc, Saint Thomas se pose ensuite à propos des causes de l'amour. La ressemblance est-elle cause de l'amour? La ressemblance n'est pas cause de l'amour. Il peut y avoir quelquefois une amitié très grande dans la similitude et la complémentarité. Oui. Il y a deux causes de l'amour. La similitude et la complémentarité. Alors on pourrait se poser la question, où l'amour est-il plus fort, dans la complémentarité ou dans la similitude? Bien, je crois qu'il faut considérer que la similitude et complémentarité ne sont pas causes immédiates et directes de l'amour. Ils jouent un rôle de disposition, de tremplin. Ça nous aide. C'est bien évident que ça aide. Quand on est semblable, il y a des similitudes. On redécouvre tout de suite ces similitudes quand on s'aime. Et on découvre aussi qu'il peut y avoir un élément de complémentarité et que cet élément de complémentarité est bon. Parce qu'il exige d'aller plus loin. et d'aimer non pas les qualités, mais la personne. Quand on s'arrête trop à la similitude, on s'arrête aux qualités. Or, l'amour ne s'arrête jamais, l'amour spirituel, l'amour d'amitié, ne s'arrête jamais aux qualités, il s'arrête à la personne. C'est la personne qu'on aime. Alors, vous voyez, la personne est au-delà de la similitude et de la complémentarité. Parce qu'il y a des personnes qui sont pour nous complémentaires et des personnes qui sont pour nous semblables. Si on s'arrête à la similitude ou si on s'arrête à la complémentarité, on s'arrête aux qualités. Similitude et complémentarité sont au niveau des qualités. Or, c'est la personne qu'on aime. La personne dans son individualité. Alors, on peut se poser aussi, alors ça c'est la question de saint Thomas se pose, est-ce qu'il y a quelques passions, quelques autres passions de l'âme qui sont cause de l'amour? Est-ce qu'une passion peut causer une autre passion? Alors, nous n'oublions pas que la passion amour est fondamentale et première. Donc, d'une certaine manière, c'est elle qui commande toutes les autres. Et c'est elle qui, par le fait même, est le plus immédiatement reliée au bien. C'est la passion par excellence qui est reliée au bien. Et c'est pour ça qu'au niveau, psychologique, c'est la passion la plus difficile à saisir. C'est beaucoup plus facile de saisir la jouissance, c'est beaucoup plus facile de saisir le désir, c'est beaucoup plus facile de saisir la haine. Les psychologues sont très pris par la haine. Parce que c'est beaucoup plus facile de saisir la haine que l'amour. L'amour, c'est la relation directe du sujet de l'homme à l'égard du bien. C'est une relation directe. Et c'est pour ça qu'elle échappe au psychologue. Parce que le psychologue étudie avant tout le conditionnement. Donc il étudie les effets de l'amour. Il étudie les conséquences de l'amour. Mais il n'étudie pas l'amour. Parce que l'amour, c'est cette relation. C'est une connaturalité profonde qui me met à l'égard du bien. Je suis en connaturalité à l'égard du bien que j'aime. Et saint Thomas étudie ensuite, et c'est la dernière question que nous voyons, les effets. Alors, il va étudier les effets de l'amour. Question 28. L'union est-elle un effet de l'amour? L'amour nous unit affectivement. L'amour nous unit affectivement. On est unis affectivement avec celui qu'on aime. Mais il y a aussi une union effective. Alors ça, c'est une petite distinction qui est très importante à faire. Une distinction capitale. La passion nous unit affectivement. On est unis affectivement, c'est-à-dire intentionnellement. C'est une union intentionnelle et affective. Et puis, l'union effective, c'est l'union réelle, physique, existentielle, si vous voulez comment dire aujourd'hui. L'union effective, c'est deux choses différentes. On est unis premièrement affectivement. On n'est pas nécessairement unis effectivement. Il faut de temps en temps, et c'est là où c'est la chose extrêmement intéressante qu'il y aurait à étudier ici, entre les liens, entre les deux. Vous voyez, quand l'union effective peut être quelquefois trop forte, la vie commune, c'est l'union effective. On est tous assis sur les mêmes bancs. On mange tous à la même heure. L'union affective. Alors, quelquefois, l'union affective est tellement forte qu'elle brise l'union affective. L'union affective est toujours fragile. D'autre part, l'union affective sans l'union affective risque de s'idéaliser. L'intentionnalité vécue uniquement pour elle-même, risque d'idéaliser. mais en idéalisant, on tombe dans la velléité. Alors l'amour se corrompt, parce qu'il ne trouve pas assez d'aliments réels. Alors c'est un amour qui voudrait une pureté affective, parfaite. Elle resterait dans l'intentionnalité, elle risquerait de s'idéaliser, tomberait dans la velléité. Je t'aime surtout quand tu es absent. C'est extraordinaire, c'est comme ça. Ah, quand tu es absent, c'est merveilleux. Il n'y a pas de nuage. C'est un ciel bleu. Dès que tu es présent, oh, tout de suite les nuages arrivent. C'est extraordinaire. Le lien entre l'union affective et l'union effective, c'est pas commode. Il faut reconnaître qu'il y a un problème. Ne pas reconnaître un problème, c'est oublier qu'il y a en nous l'intérieur et l'extérieur. L'intériorité, c'est ici. Une intériorité plus ou moins grande. Hein. L'intériorité passionnelle, c'est pas une intériorité parfaite. N'est-ce pas ? C'est bien évident, c'est une intériorité imaginative, sensible. Mais c'est quand même une intériorité. C'est quand même une intentionnalité. Et alors, quand vous avez l'union affective au niveau volontaire, au niveau de l'amour d'amitié, c'est beaucoup plus fort. On est unis affectivement. Et quand ça passe au niveau surnaturel, c'est beaucoup plus fort. Vous voyez, donc il y a 3 degrés d'intériorité. Quand on parle de l'intériorité, il ne faut jamais oublier, il y a 3 degrés d'intériorité. Pour nous chrétiens, il y a l'intériorité imaginative, passionnelle. Elle existe. Il y a une intériorité volontaire, spirituelle, et une intériorité divine. 3 intériorités. Il faut bien reconnaître ces intériorités. Et il faut creuser l'intériorité pour elle-même. Et l'intériorité se creuse pour elle-même. Et cette union affective réclame une union affective. Je dis bien, elle réclame une union affective. Mais quelquefois, l'union affective devient un élément qui peut être comme un poids par rapport à l'union affective. Et quelque chose qui risquerait de faire que l'union affective n'a plus autant d'intensité, autant de force. C'est curieux, ça. À la fois, quand on est absent, on n'a qu'un seul désir, c'est de se retrouver. Et dès qu'on se retrouve, on n'a qu'un seul désir, c'est de dire oh non, il faut beaucoup mieux. Ça va pas, il faut se mettre mieux. C'est ce qu'on voit constamment dans l'amour de gens qui vivent ensemble avec la vie commune du foyer. C'est constamment ces problèmes-là. Et c'est des problèmes auxquels il faut faire grande attention. Il faut quelquefois demander pour que 2 personnes puissent continuer de s'aimer, de se séparer momentanément. Il faut dire, ah non, vous êtes mariés, vous n'avez pas le droit de dire ça. Il faut sauver l'union affective. C'est l'union affective qui est première. C'est ça qui est premier. Parce que l'union affective, c'est l'essentiel. Tant que l'union affective existe, rien n'est perdu. Mais le jour où l'union effective, vous comprenez très bien, on peut vivre l'un à côté de l'autre, hein, en se tournant le dos. Et on est l'un à côté de l'autre. Il y a du tout. L'union effective, elle est seconde. La distinction entre l'âme et le corps. L'union affective est première. C'est elle qu'on doit sauvegarder à travers tout. L'union effective est seconde. Elle est nécessaire, comme le corps par rapport à l'âme. Elle est nécessaire, mais elle est seconde. Et le jour où l'union affective, le désir de l'union affective, passe avant, le corps risque de devenir le tombeau de l'âme. Et alors, l'union affective risque de devenir le tombeau de l'union affective. C'est même, je crois, comme ça qu'on est arrivé à dire que le corps est le tombeau de l'âme. Je crois que c'est par point de vue de cette union affective et d'union affective. Chez Platon. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Parce que Platon a un très grand sens de ce que représente l'amour d'amitié. Il a un très grand sens de voir comment, à certains moments, l'union effective risque d'être trop lourde, étant donné la fragilité de l'union affective. D'être trop lourde. Et alors, à ce moment-là, si elle est trop lourde, elle devient pesante et elle devient tombeau de larmes. Donc, elle devient le tombeau de l'union affective. À la place de l'épanouir, elle l'arrête. Elle devient un été noir. Il y a donc là un problème, vous voyez, et un problème qui est le problème sui generis de chaque ami. On ne peut pas établir des règles dans ce domaine-là. On doit soi-même découvrir le rythme profond du développement de l'union affective par rapport à l'union affective. Il y a un développement. L'union affective doit croître.